I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le jeudi 16 juin 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près.
Le jour où je suis né, alors que je n'étais âgé que de quelques secondes, le moment exact et la cause de ma mort étaient déjà connus.
Affection neurologique, 60% de probabilité. Psychose maniaco-dépressive, 40% de probabilité. Trouble cardiaque, 89% de probabilité. Espérance de vie, 30 ans et 2 mois.
30 ans.
Si, comme moi, vous aimez les films de science-fiction, vous avez peut-être reconnu l'extrait que je viens de vous passer. Il s'agit de la scène d'ouverture de « Bienvenue à Gattaca ». Dans cette dystopie, les enfants sont conçus in vitro, après une sélection méticuleuse des gamètes de leurs parents, et comme vous venez de l'entendre, une simple prise de sang permet de détecter, dès la naissance, les risques de pathologie et l'espérance de vie d'une personne. Un peu effrayant, hein ? Alors, je vous rassure, aujourd'hui, je ne vais pas vous expliquer comment cette dystopie pourrait devenir réalité dans un futur proche, mais si j'ai choisi de commencer par cet extrait, c'est parce que les progrès scientifiques et technologiques promettent de grandes avancées pour la médecine dite prédictive, une voie dans laquelle start-up et géants de la tech sont prêts à s'engouffrer, mais avec quels effets secondaires ? C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. J'ai prononcé les mots magiques, innovation technologique, géant de la tech, start-up, et vous avez peut-être déjà compris qui se trouve en face de moi aujourd'hui. Salut Frédéric.
Salut Xavier.
Frédéric Filloux, tu es journaliste et chroniqueur tech à l'Express, et tu publies dans nos pages une enquête sur la santé prédictive. Frédéric, tu me confirmes bien que ce dont on va parler aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec l'extrait qu'on a entendu en début de cet épisode.
Oui, c'est vrai que ce film était visionnaire puisqu'il a été tourné il y a 25 ans et que les auteurs avaient quand même vu quelque chose de très important qui est le facteur déterminant de tout ce qui est génomique. Mmh. Mais on est loin de pouvoir dire vous allez mourir à telle date, etc.
Alors d'abord, pour savoir où on met les pieds, j'ai demandé à Pascal Pujol de m'expliquer ce qu'on entend aujourd'hui par ce terme de médecine prédictive. Il est professeur de médecine à la faculté de Montpellier et président de la Société française de médecine prédictive et personnalisée. Et voilà ce qu'il m'a répondu.
La médecine prédictive, c'est une médecine qui vise à identifier des facteurs de risque d'une pathologie pour mettre en place ce qu'on appelle des stratégies de dépistage ou de prévention. Autrement dit, on a des indicateurs, souvent génétiques, mais pas que, qui nous indiquent qu'une personne a une probabilité forte de développer une pathologie. Et derrière, on a des outils qui permettent soit de faire des diagnostics précoces, soit encore mieux, de les éviter. C'est ce qu'on appelle la prévention.
Je range cette nouvelle définition dans l'armoire. Maintenant qu'on sait ce qu'est la médecine prédictive, on va s'intéresser aux indicateurs qui peuvent aujourd'hui nous permettre de connaître les facteurs de risque, à commencer par la génétique. Mais Pascal Pujol m'a bien précisé que ce recours s'inscrit aujourd'hui dans un cadre délimité par la loi.
Alors, on a deux grandes indications aujourd'hui des analyses génétiques. La première est bien connue, c'est quand vous avez des antécédents familiaux nombreux d'une pathologie particulière. On l'a dans deux grands domaines, dans le cancer, mais aussi dans des maladies cardiaques. L'autre grand registre, ce sont ce qu'on appelle les maladies rares, dont on sait que le déterminisme génétique est souvent là, même tout à fait en dehors de notions familiales.
Antécédents familiaux ou maladies rares, Pascal Pujol m'a expliqué pourquoi les médecins sont cantonnés aujourd'hui à ces cas de figure.
Le paramètre économique, si on le faisait à tout le monde, ça coûterait beaucoup d'argent. Est-ce que ça serait rentable ? Deuxièmement, il y a un paramètre éthique. Celui-là, est quand même, j'aurais dû le mettre en premier, il est fondamental. Parce que l'analyse génétique, dite prédictive, doit emporter l'adhésion absolue du patient. Il n'est pas question de faire une analyse génétique chez quelqu'un qui ne souhaiterait pas avoir cette information.
Au cœur de la médecine prédictive, il y a cette idée absolument essentielle de ce qu'on appelle la donnée actionnable, qui est l'élément objectif, quantifié, mesuré sur lequel on va avoir une influence. Alors, on rentre dans quelque chose d'assez compliqué, d'une zone un peu grise, qui est qu'est-ce qu'on doit dire au patient et qu'est-ce qu'on doit utiliser par rapport à ce qu'on sait du patient. Par exemple, s'il s'agit de détecter une probabilité d'une maladie cardiovasculaire, c'est très important. Le patient peut faire quelque chose en changeant son mode de vie, en arrêtant de fumer, en arrêtant de picoler, etc., en faisant du sport. Mais par exemple, si on détecte chez une personne de 30 ans qu'elle va probablement avoir une propension un peu supérieure à la moyenne de développer Alzheimer, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Donc là, on va se retrouver avec des gens qui vont avoir des épées de Damoclès au-dessus d'eux et dont certains vont mal les gérer, bien évidemment.
Ça, c'est pour les questions éthiques autour des tests génétiques. Et on l'a vu, la France y répond avec des limites légales. Mais cet encadrement n'est pas le même partout, Frédéric.
Bah, effectivement. Alors, moi, j'ai découvert ça en 2017, lorsque je me trouvais aux États-Unis. Je connaissais l'existence de 23andMe, qui est la grande société qui fait des tests génomiques grand public aux États-Unis. On appelle ça la génomique récréative, qui est un terme un petit peu abusif. Mais moi, j'ai voulu non pas en abuser, mais l'utiliser pour détecter une chose précise, qui est que je voulais savoir si j'avais un variant génétique qui me prédispose à une cécité à l'âge de 60, 70 ans, etc. Donc, j'ai fait le test dans cet objectif-là. Il y avait deux possibilités. Il y avait la possibilité de faire un test générationnel, c'est-à-dire, ça s'appelle ça Ancestry, c'est-à-dire on trouve effectivement qu'on a, dans mon cas par exemple, une ascendance irlandaise dominante dont j'ignorais totalement l'existence. Mais moi, je voulais savoir vraiment cet aspect-là. Manque de bol, j'ai le variant, mais ce qui veut dire que, de façon positive, parce qu'on va quand même positiver, avec quelques mesures préventives, je vais pouvoir avoir connaissance de l'échéance et puis pouvoir prendre quelques mesures. Donc, il y a une dimension utilitaire.
Comment ça se passe concrètement pour faire ce test, Frédéric ?
Alors, c'est pas compliqué. On va sur le site internet, en l'occurrence de 23andMe, mais il y en a d'autres. On remplit un formulaire, on met son numéro de carte de crédit, on est débité de $150 pour avoir le test de base. On reçoit au bout de 15 jours un test avec un coton-tige qu'on se met dans le nez, on met ça dans un tube.
Et ça rappelle quelque chose ?
Voilà, tout à fait. On a maintenant tous une grande pratique de ça. On met ça dans une enveloppe, puis les résultats commencent à arriver avec une certaine régularité au bout de 3 semaines. Je dis avec une certaine régularité parce que ce qui est intéressant, c'est que ce sont des résultats qui sont analysés en permanence. J'ai dû faire la première série de tests en 2017. Je continue à recevoir tous les mois des trucs, des découvertes.
Ces tests dont on parle, Frédéric, ils sont encore interdits en France ?
Ils sont très largement interdits pour le grand public. Alors, il y a plein de raisons pour ça.
Les tests qui sont proposés aujourd'hui de façon commerciale et qui mélangent du récréatif et de l'information médicale relèvent un peu de la supercherie. Pour l'analyse génétique à visée médicale, il faut être très précis. Il est évident que quand on achète un test à $100, la qualité des tests n'est pas celle qui est facturée aujourd'hui dans nos établissements, 1 500 €. Il y a un décalage, pourquoi ? Parce qu'il y a une profondeur de séquençage, enfin, il y a des critères de qualité. On ne les a pas, ces critères de qualité.
Là, on vient d'aborder, Frédéric, le versant génétique de la médecine prédictive, mais Pascal Pujol nous parlait de différents indicateurs. Quels sont les autres ?
Alors là, c'est un des grands progrès quand même de la médecine prédictive et sans doute une des grandes différences par rapport à une analyse brute qui va être une analyse génomique, c'est qu'aujourd'hui, les tenants de la médecine prédictive vont analyser un patient dans l'ensemble de son environnement. Donc aujourd'hui, il y a des facteurs quantifiables à prendre en compte et il y a des facteurs inquantifiables. Et ceux-là sont les plus difficiles parce que par exemple, si on prend quelqu'un de foncièrement optimiste, par rapport à quelqu'un de foncièrement pessimiste, on sait par des tas d'études que ça a une influence déterminante dans la façon de gérer les maladies. Donc, effectivement, aujourd'hui, l'individu est considéré dans son ensemble.
Après la génétique et l'examen de l'environnement du patient, un outil donne un nouveau souffle à la médecine prédictive. Il y avait les stéthoscopes, les tensiomètres, la prise de sang. Place maintenant aux data.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Xavier, si je te disais qu'une montre pourrait apporter beaucoup de choses à la médecine prédictive.
Oui, alors là, j'imagine que tu parles des montres connectées. Je sais qu'elles peuvent mesurer ton rythme cardiaque, mais c'est un peu gadget, non ?
Ce n'est plus gadget. Aujourd'hui, ce qui m'a quand même surpris dans l'enquête qu'on a fait pour l'Express, c'est de constater qu'il y a une énorme adhésion du corps médical, notamment dans certaines disciplines comme la cardiologie, à ces montres connectées. Ces montres connectées, elles sont capables, comme celles d'Apple, il y en a d'autres, mais Apple a le plus grand échantillon au monde et donc a la plus grande précision. Elle est reconnue comme étant quelque chose aujourd'hui très fiable. Elle capte une trentaine de paramètres qui vont être effectivement ton rythme cardiaque, et notamment toutes les irrégularités de ton rythme cardiaque, et il y a effectivement une possibilité d'anticiper un mauvais fonctionnement cardiaque. Pareil pour l'oxygénation sanguine, qui est également un élément très important. Il y a un petit capteur infrarouge dans le boîtier de la montre qui va regarder littéralement la couleur de ta veine et qui va permettre de déterminer avec une grande exactitude quel est ton taux d'oxygénation sanguine, qui a été un élément extrêmement important dans le Covid. Et ce qui est intéressant, un cardiologue que je cite dans le papier m'expliquait ça, il m'expliquait que les gens lui envoient via leur téléphone portable, des profils cardiaques qui sont d'une extrême utilité. Alors après, évidemment, ces profils vont être confirmés en cabinet par une analyse cardiaque classique, mais ce sont des indicateurs de santé publique extrêmement précieux.
Bon, tu m'as convaincu sur les montres. Est-ce qu'il y a d'autres objets connectés qui permettent comme ça d'améliorer notre santé ?
On risque de se retrouver dans les décennies prochaines avec une, tu as raison, une immense liste d'objets qui nous serviront à détecter notre santé. Donc ce sera par exemple une brosse à dents, ça pourrait être une lentille de contact. Google a longtemps travaillé sur une lentille de contact qui déterminait le taux de sucre. Dans le papier, on parle de la marque française qui est remarquable là-dessus, à la fois sur les montres connectées, mais sur d'autres objets, qui est Withings, qui propose des balances connectées. Et donc, si tu te mets à corréler ton activité physique à ton poids, à l'évolution de ton poids, etc., tu finis par avoir des données extrêmement précises sur ton état de santé.
Bonjour, je m'appelle Christophe Tricot, je suis cofondateur et dirigeant de La Forge. La Forge est un start-up studio, c'est-à-dire une entreprise qui crée des startups, qui a une mission de démocratiser les meilleures expertises en santé grâce à l'intelligence artificielle.
Christophe Tricot, c'est un expert que tu m'as conseillé d'appeler, Frédéric, pour qu'il nous donne une idée de la place que pourraient prendre toutes ces données dans la santé de demain.
Tout au long de votre vie, vous allez faire plein d'examens et de plus en plus, on va collecter ces informations. En tout cas, vous les avez peut-être aujourd'hui sur un coin de votre disque dur, dans un Dropbox et autres. Mais demain, quand on aura enfin un dossier médical solide, on aura toutes ces données-là. Beaucoup plus de données aussi, c'est parce que la technologie avance. Les scanners et autres machines qui génèrent des données, mais qui sont des... Les volumes sont juste incroyables, mais parce que leur précision aussi est incroyable. Donc, c'est aussi lié à ça. Et aussi, plus de données, parce qu'on est à une échelle planétaire. Maintenant, on est en capacité de croiser des données de populations toujours plus grandes.
C'est vrai que ces histoires de données sont absolument déterminantes. Je vais faire un petit détour, juste pour illustrer le propos, qui n'a rien à voir avec la santé, mais pour parler aéronautique.
Aujourd'hui, je ne vois pas trop le rapport, mais je sens que ça arrive.
J'explique. Aujourd'hui, lorsque tu traverses l'Atlantique à bord d'un avion, celui-ci va envoyer un grand nombre de données vers le sol. Certaines de ces données vont être envoyées en direct et d'autres données vont être stockées à des fins d'analyse. Quel est le but de ces données ? C'est de faire de la prédiction, c'est-à-dire qu'il y a sur un moteur d'avion un très grand nombre de capteurs qui vont analyser chacun des tout petits éléments, un roulement ici, une pompe là, un circuit électrique là, et on va en déterminer le taux d'usure. Et donc, on va faire des statistiques sur des millions d'heures de vol qui sont effectuées chaque jour et on va en déterminer des probabilités. Et si on revient au cas des humains, et si on imagine un système dans lequel on a tout un tas de capteurs qui envoient des données de façon hyper fréquente dans des systèmes, on va être en mesure de détecter au niveau des groupes, on appelle cela des cohortes, mais également au niveau des individus, leur probabilité de développer telle ou telle pathologie. Ça va fonctionner un peu comme un moteur. C'est pour ça que l'analogie est finalement relativement pertinente.
Ce que tu nous décris pour le moteur d'avion, ça existe déjà pour les humains, ça s'appelle le check-up, le bilan de santé.
Le bilan de santé devrait effectivement être un instrument de santé publique déterminant, essentiel. L'ennui, c'est que c'est très peu utilisé. On en fait à peu près 10 000 par an en France, ce qui est extrêmement faible. Pourquoi ? Parce que c'est un instrument médical extrêmement cher, ça coûte entre 2 et 4 000 euros. Mais l'idée consiste à généraliser tout ça et en faire vraiment un instrument de santé publique. C'est l'objet d'une société que j'ai rencontrée pour les besoins du papier qui s'appelle VitaHub. Christophe Tricot travaille très étroitement avec eux. Et qui porte sur la généralisation des check-ups, des bilans de santé, qui seront faits, du coup, avec une grande économie d'échelle, à des prix nettement inférieurs. Ce sera quasiment un facteur de 10. Et la possibilité d'en faire des millions par an va complètement changer le profil de la santé publique française. En tout cas, c'est l'idée de cette entreprise.
Examens médicaux, objets connectés, check-up régulier, les sources de collecte d'informations sur notre état de santé vont donc se multiplier. Et Christophe Tricot m'a expliqué que, comme souvent face à un afflux de données, l'intelligence artificielle aura un grand rôle à jouer.
Et la promesse de l'intelligence artificielle, c'est d'analyser beaucoup plus de données, plus systématiquement et à grande échelle. Par exemple, quand on travaille sur des outils de diagnostic, grâce à l'intelligence artificielle, on est capable de détecter des signes de pathologie que des médecins ne peuvent pas détecter parce qu'ils ne l'ont jamais croisé. Et la promesse de la data derrière ça, c'est-à-dire toutes ces données qu'on accumule, c'est de systématiser les détections, systématiser le partage de l'information et de la connaissance. Alors, je vous vends un monde idéal dans ce que je dis, mais c'est quand même la promesse de toute cette plateforme données de santé.
Un monde idéal où les connaissances sont partagées et le traitement des données systématisé, mais une inconnue reste encore à trancher. Qui va s'en occuper ?
Les données de santé, c'est quand même le Graal. C'est quand même le patrimoine de data qui sera demain le plus important.
Un Graal de data, je crois que j'ai une petite idée de qui ça peut attirer.
Qui dit data, dit capteur pour avoir cette data. Qui dit capteur, dit appareil pour exploiter ces capteurs, dit les big tech. Parce que demain, imaginez un système où votre data, elle est collectée pour vous accompagner à développer votre patrimoine de santé, vous soigner, etc. La question se pose, mais qui va gérer ces data? Qui va être le tiers de confiance? Alors évidemment, ça vient heurter la notion de souveraineté. Mais toujours est-il que si on est un peu objectif, les seuls acteurs qui ont avancé sur ce terrain-là sont les big tech et à commencer par Apple. Aujourd'hui, par exemple, en France, on n'a pas de solution étatique qui propose une solution qui soit au même niveau. Mais les big tech vont pas nous attendre. Et elles sont déjà là et elles ont compris tout à fait l'enjeu.
Frédéric, Christophe Tricot cite Apple. Est-ce qu'on a une idée de la stratégie des big tech pour nos données de santé ?
Quand on regarde à 10 ou 20 ans les profils de croissance des géants de la technologie, la santé est le facteur le plus important dans leur croissance. À partir de là, il y a des stratégies qui sont complètement différentes et qui n'ont rien à voir en fonction des entreprises. Si on prend par exemple Apple... Apple s'est positionné sur le fait qu'avec eux, les données sont protégées. Ils ont raison sur un point qui est qu'Apple n'a jamais fait commerce des données. L'objectif d'Apple, c'est de vendre des appareils. Mmh. Mais encore une fois, pour Apple, la santé est un élément très important dans leur croissance future. C'est pour ça qu'en 2016, 2 ans après la sortie de l'Apple Watch, ils ont acheté un réseau de cliniques près du siège de Cupertino, avec des médecins qui étaient donc des salariés de l'entreprise, et ils ont commencé à faire des études réelles, c'est-à-dire les patients, notamment les patients d'Apple, allaient dans ces cliniques, faisaient ce qu'ils avaient à faire, étaient soignés, et on regardait tout, on mesurait tout, etc. Mmh. Et ça a contribué très considérablement à l'amélioration de l'Apple Watch.
Ça, c'est pour Apple, mais les autres, Google, Amazon, etc.
Alors, Google et Amazon sont sur un modèle différent. Eux fonctionnent par le fait que la data est au centre de leur business model. Mmh. Google se sert de toutes les données qu'il récolte pour améliorer son ciblage publicitaire et Amazon se sert de toutes les données qu'il récolte sur sa boutique et ailleurs pour dresser des profils extrêmement précis de façon à vendre un maximum d'objets aux gens. Donc, on est dans un système où ces deux-là se trouvent dans un conflit d'intérêts absolument évident. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles ne prennent pas des précautions. Il y a tout un tas de watchdogs, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire d'organismes qui vont les surveiller. Il y a des organismes internes, etc. C'est quand même sérieusement fait. Mais ces données, elles intéressent en fait d'immenses secteurs, à commencer par les banques, les assurances, et d'une façon générale, toutes les entreprises qui vont interagir avec le public de façon économique. Parce que toutes ces entreprises sont dans la gestion de risque. Le problème aux États-Unis, qui est un système extrêmement brutal, c'est qu'on risque de se retrouver avec des groupes très importants de population qui, parce qu'ils auront de mauvaises données, entre guillemets, ne seront pas en mesure d'emprunter, seront discriminés à l'embauche parce que leur profil représentera un risque supérieur à ce que l'entreprise veut avoir. Heureusement, c'est quelque chose sur lequel, et c'est un bienfait du système français, on est préservé dans notre pays.
J'allais y venir justement, tu nous parles du système de santé américain. Quels sont les garde-fous du système de santé français ?
Il y a des autorités comme l'ACPR, qui est schématiquement celle qui régit tout le système de collecte et d'analyse et de stockage des données de santé en France. Il y a la CNIL, qu'on connaît. Et ces organismes-là sont extrêmement compétents. C'est-à-dire que ils viennent auditer comment sont stockées les données, et on peut estimer que le système est extrêmement fiable dans notre pays.
Des garde-fous pour un système équilibré, voilà de quoi nous rassurer. Merci beaucoup Frédéric.
Merci Xavier.
Frédéric Filloux, je rappelle que tu es journaliste spécialiste tech à l'Express et qu'on peut retrouver ton article sur la santé prédictive et bien d'autres sur l'express.fr. Profitez-en, en ce moment, le premier mois d'abonnement numérique est offert. Quant à moi, je peux faire une prédiction sans prendre le risque de me tromper. Si vous avez apprécié cet épisode, vous aimerez celui de demain. Alors pour ne pas le rater et pour retrouver tous nos anciens épisodes, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Cet épisode a été fabriqué avec Jules Benveniste et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.
I'm Andrea, founder of a boutique handbag brand, Andy, and this is why I switched to Shopify. I tried three other platforms prior to Shopify, and I remember my breaking point was when I would try to make one little change and my entire site would go down. With the drag and drop theme editor, we don't need to hire a developer to do any coding. Each theme is automatically optimized on mobile. It's incredible.
Get a $1 per month trial period at shopify.com/listen. Go to shopify.com/listen to take your business to the next level today.